aujourd'hui, c'est notre 25e sermon sur le livre de l'Ecclésiaste. Aujourd'hui, le titre du sermon est « Salomon a testé la sagesse humaine, deux points, déficiente ». Alors, il va y avoir trois idées qu'on va examiner. La première, c'est que c'est une déficience qu'il a personnellement expérimentée, les versets 23 à 25. Deuxièmement, c'est une déficience qui est amèrement exclamée, le verset 26. Et troisièmement, c'est une déficience qui est lucidement exposée, les versets 27 à 29. Depuis les tout débuts de notre étude sur le livre de l'Ecclésiaste, le roi Salomon nous a démontré ses tentatives persistantes d'utiliser sa sagesse comme moyen de mettre à l'épreuve diverses théories sur la recherche d'un véritable profit et d'un sens ultime à la vie. Il nous révèle dans ce passage les résultats limités et négatifs de ce test. Sa quête était pour une sagesse au-delà de sa sagesse humaine. Il avait cherché avec acharnement de comprendre la façon dont la vie fonctionnait à ses niveaux les plus profonds. Il avait voulu élargir sa compréhension des mystères de la façon dont Dieu récompensait et jugeait la famille humaine. Il avait tenté de percer le secret des temps de Dieu dans sa vie et de celle des hommes, et avait voulu plonger ses regards dans le but ultime de l'activité divine. Toutes ces recherches et observations l'amènent à conclure que tous ses efforts étaient inutiles, vains et infiniment hors de sa portée. Salomon avait épuisé tous les outils, toutes les expériences, tous les moyens pour approfondir son investigation. Il avoue ici humblement que sa quête n'a été qu'un monumental échec. Comme toutes ses découvertes, il a conclu que tout est vanité et poursuite du vent. Il a poursuivi obstinément ce qui était trop vaste et trop profond pour lui. Comme on le voit dans le verset 23, « J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage, et la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est loin, ce qui est profond, profond, qui peut l'atteindre? » Alors, on va regarder le premier point qu'on avait mentionné, une déficience personnelle, personnellement expérimentée. Alors, on sait que Dieu avait donné à Salomon une grande sagesse, de la richesse et aussi même de la puissance militaire. Alors, on voit dans le verset 23 que Salomon était, on pourrait dire, un observateur, qu'il avait expérimenté toutes ces choses-là de façon personnelle. Parce qu'on relit le verset 23 à 25, il dit « J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit « Je serai sage » et la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est loin, ce qui est profond, profond, qui peut l'atteindre? Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. » Alors ici, Salomon reconnaît et déplore les lacunes de sa sagesse. Il avait assez de sagesse pour voir la vanité du monde et pour expérimenter que cela ne mènerait pas à une satisfaction de l'âme. On sait que Dieu seul peut satisfaire l'âme humaine. Le Seigneur lui avait donné de la sagesse au-delà de toute mesure, de l'intelligence, de la richesse et de la gloire. Il avait reçu le meilleur pour un homme. Il avait absolument tout pour satisfaire sa quête de sens, en autant qu'il demeure dans les limites de la sagesse humaine. Son erreur a été qu'il a voulu plonger ses regards dans les choses secrètes de Dieu. Il a orgueilleusement voulu sortir de la sphère humaine et entrer dans celle du Seigneur, de sa souveraineté et de sa providence. Juste pour nous rappeler la vérité qu'il était vraiment privilégié, on va relire le premier chapitre du Livre des Rois, au chapitre 3, les versets 5 et les versets 12 et 13. Alors, on va regarder le verset 5 d'abord. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Et les versets 12 et 13, « Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. » Alors on voit qu'ayant on dit une expérience privilégiée, on voit qu'il avait été abondamment privilégié par le Seigneur. Mais sa quête avait été au-delà de ce qui lui était assigné dans la sphère humaine, et il a voulu rentrer dans la sphère divine, et il s'est vite rendu compte qu'il n'était pas à la hauteur. Alors, il y a un verset qui nous rappelle cette chose, c'est dans Deutéronome, le chapitre 29, le verset 29, qui nous dit, « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Alors, on peut voir à la lecture du verset 23 que ses recherches avaient été laborieuses. Il dit « J'ai éprouvé tout cela ». Il sous-entend tout ce qu'on a vu dans les leçons précédentes, qu'il a examiné cela avec un grand travail et été laborieux. « J'ai éprouvé tout cela par la sagesse ». Bien entendu, quand il parle de sagesse, c'est la sagesse humaine que Dieu lui a donnée. Et on voit aussi que ses recherches ont été résolues. C'est quelque chose qu'il avait pris une décision catégorique et il avait tenu parole, autrement dit. J'ai dit, je serai sage. Cependant, on voit que les résultats n'ont été que poursuite du vent. Parce que dans la dernière partie du verset 23, il dit, et la sagesse est restée loin de moi. Bien sûr, quand il parle ici de la sagesse est restée loin de moi, il ne parle pas de la sagesse humaine, il parle de la sagesse divine. Chercher à comprendre comment Dieu travaille avec les hommes, comment Dieu envoie des épreuves aux hommes, et chercher à comprendre tout, et chercher à tout expliquer, et prétendre comprendre tout de la manière dont Dieu travaille. Alors, ses recherches lui ont enseigné beaucoup de choses. En disant qu'il lui a enseigné beaucoup de choses, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu beaucoup de passages. Je vais nommer les passages, on ne retournera pas les lire, mais on va tout simplement reviser ce qu'on a déjà vu depuis le début du chapitre, depuis le début du livre d'Ecclésiaste, ce qu'il a appris. Quand il dit j'ai éprouvé tout cela par la sagesse. Première chose qu'il avait constatée, c'est que tout semble vain dans la vie, dans les versets 1 à 3 du chapitre 1. Deuxième chose, c'est qu'il avait appris, il avait fait des réflexions sur le cycle monotone de la nature et de l'existence humaine, versets 4 à 11 du chapitre 1, encore une fois. Et la troisième chose, il avait vu la vanité de la recherche de satisfaction avec la sagesse humaine, les versets 12 à 18 du chapitre 1. Il avait ensuite appris d'autres choses. Il avait appris la vanité de recherche de satisfaction dans l'expérience. Et cette expérience-là avait été très variée. Le plaisir, la boisson, les travaux de construction, l'agriculture, l'horticulture, les possessions étendues, la richesse et la musique. Donc, c'était très varié comme expérience. Ça, on le voit dans les premiers versets du chapitre 2. Il avait aussi vu la vanité de la recherche de satisfaction dans la sagesse et dans le travail. Et on continue, la vanité de la recherche dans le monde présent. Il s'était rendu compte de l'opacité du plan souverain de Dieu, de la méchanceté et de l'oppression du monde, de la fragilité, par exemple, de la popularité humaine. Il avait également vu la vanité de la recherche de satisfaction dans la richesse, et ensuite il avait donné plusieurs conseils pour bien mener, pour avoir une vie humaine et terrestre bien réglée. Et ensuite, il avait vu aussi la sagesse et la souveraineté de Dieu dans les afflictions providentielles de Dieu. Alors, quand on est arrivé au chapitre 7, les versets 13 et 14, si vous vous souvenez, on a passé 5 leçons là-dessus. Il a vu comment Dieu, dans sa souveraineté, permettait qu'on reçoive des biens, on reçoive des afflictions, qu'on reçoive des bénédictions, et qu'il avait perçu comment Dieu était souverain à l'intérieur de tout cela, et que pour l'homme, c'était impossible de prévoir ce qui était pour arriver après une expérience comme après l'autre. Il avait appris cela. Et il avait aussi appris, dans la dernière leçon qu'on avait vue, donc dans le chapitre 7, les versets 15 à 22, que le sort du sage et celui du méchant sont parfois similaires, que le sort du juste est avantageux malgré ses limites, et que les excès sont à éviter, et que la crainte de Dieu est à adopter. Donc, il avait vu, on ne peut pas rentrer dans tous les détails qu'on a vus des leçons précédentes, mais quand il dit qu'il a examiné toutes choses par la sagesse, et il a vu toutes ces choses-là. Et ici, il prend conscience de quelque chose. Il réalise maintenant que la sagesse humaine a de sérieuses limites et qu'elle ne te donne pas la capacité d'entrer dans les décrets providentiels de Dieu et de les comprendre. Le Seigneur vient de lui enseigner de demeurer dans la sphère humaine et de ne pas tenter de l'outrepasser. C'est ce qu'il a fait, mais il se rend compte, dans le fond, lui-même que... Donc la première chose qu'on peut dire dans le verset 23, c'est une expérience privilégiée à cause de tout ce qu'il avait reçu de Dieu et de la grande intelligence que Dieu lui avait donnée. Autre chose, dans le verset 24, on voit que pour lui, ça a été une expérience humiliante. Parce qu'il dit, ce qui est loin, ce qui est profond, profond, qui peut l'atteindre? Alors, Salomon vient de comprendre que sa quête est trop audacieuse, trop orgueilleuse, trop ambitieuse, trop démesurée et même trop prétentieuse. La dernière partie du verset pose une question hypothétique dont nous connaissons la réponse très catégorique. Autrement dit, la réponse à sa question qui peut l'atteindre, personne ne le peut. Le conseil du Seigneur, c'est son décret. Alors, on sait que les Écritures nous enseignent que Dieu, à un moment donné, a décrété toutes les choses qui étaient pour arriver dans toutes les époques, à tous les temps, à tous les niveaux, au niveau individuel comme au niveau des nations. Le décret. Alors, en fouillant un peu dans mes notes, j'ai vu que le pasteur John MacArthur, qui est bien un pasteur américain bien connu, donne 8 caractéristiques sur ce qu'on appelle le décret divin. Alors, premièrement, il commence par le définir. Le décret de Dieu désigne son plan éternel par lequel, selon sa volonté décrétive et pour sa gloire, il a décidé d'avance tout ce qui doit se produire. Imaginez, c'est difficile à saisir parce que Dieu, dans un seul décret, a entré tout ce qui était pour se produire sur la terre, dans toutes les époques, dans tous les temps, à tous les individus, et plus que ça, là, même dans la nature, dans le ciel, dans la mer, partout, tout ce qui était pour se produire dans l'existence terrestre. C'est extraordinaire. Alors, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné, il donne une liste des grandes caractéristiques du décret de Dieu. Alors, on va les regarder ensemble. C'est bon de regarder ces choses-là parce que ça nous fait prendre conscience que malgré la sagesse très grande que Dieu lui avait confiée, c'était de la sagesse humaine. Là, il a essayé de rentrer dans ce qu'on pourrait appeler le décret de Dieu, essayer de comprendre les choses dans la perspective de Dieu lui-même. Et c'est là qu'on voit qu'il visait trop haut, il visait trop grand. Alors, les caractéristiques, selon John MacArthur, il y en a 8. On va les regarder rapidement. Premièrement, le décret est simple. Parce qu'il dit dans Éphésiens, chapitre 1, verset 11, le conseil de sa volonté. C'est aussi quelque chose qui est complet. Parce que, dans Éphésiens, il dit qu'il opère toutes choses au pluriel, y compris la préparation des bonnes œuvres, des gens, Éphésiens 2, 10, ainsi que les actions mauvaises. Là, je ne vous nommerai pas tous les versets, il y en a beaucoup. Pour ceux qui sont intéressés à aller voir plus loin là-dedans, vous pourrez toujours télécharger la leçon et aller regarder les versets. Il y en a beaucoup et c'est très intéressant de voir quand on dit complet, là, les actions bonnes, les œuvres des saints, les actions mauvaises des hommes, les événements contingents du point de vue humain, les moyens et la finalité des actes, la durée de la vie d'une personne et le lieu où elle se déroule. Alors, c'est vraiment, quand on dit complet, c'est l'ensemble de toutes les activités qui a pu se dérouler, non seulement sur la Terre, mais dans l'univers, à tous les en détail. C'est comme les Anglais disent, « mind-blowing ». Ça nous emmène à l'adoration pour voir jusqu'à quel point Dieu est grand. Troisième caractéristique, c'est inconditionnel. Alors, les affaires qui arrivent, ce n'est pas basé sur des conditions préalables, ce n'est pas basé sur des influences extérieures, parce que ça nous dit « d'après le conseil de sa volonté ». Donc, c'est lui qui a décidé les choses qui étaient pour arriver dans la vie terrestre et dans la vie même, je dirais, de l'univers. Quatrième caractéristique, ça dit que c'est éternel. Ça nous dit dans « qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Alors, on voit ici le côté éternel du décret. Cinquième caractéristique, c'est celui de l'efficace. Il dit dans Ésaïe 46, verset 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Alors ici, j'ai nommé Ésaïe 46, 10, mais il y a d'autres versets, comme je vous ai dit tantôt, prenez le temps de télécharger si vous voulez regarder cela en détail. Sixième caractéristique, c'est le fait immuable. Quelque chose qui ne change pas. À partir du moment où Dieu décide d'une chose, c'est irréversible, ça va s'accomplir. Ici, immuable, on le voit dans le verset Job, chapitre 23, versets 13 et 14. « Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? » Septième caractéristique, c'est quelque chose qui prescrit le péché et en contrôle les effets. Par exemple, dans dans Romains, chapitre 1, versets 24, 26 et 28, ça nous dit que Dieu les a livrés. Ceux qui n'ont pas voulu, Dieu les a livrés à leur sens, à la dépravation, au péché et aux conséquences de leurs mauvaises actions. Et dans le 8e, il nous dit le but du décret. Alors quand on regarde tout ce qui se passe dans l'univers, sur la terre, dans nos vies personnelles, dans la vie des nations, ça nous dit que le but de tout ce décret-là, de tout ce qui se produit, de tout ce qui se manifeste, de tout ce qui se réalise sur la terre, c'est de manifester et de célébrer sa gloire. Alors bien sûr, il y a plusieurs versets, mais un que j'aime particulièrement dans Romains, au chapitre 11, les versets 33-36, et il y a d'autres passages qui nous parlent du but du décret de Dieu. Alors, pour ceux qui sont intéressés, j'ai mis le lien web où j'ai pu trouver toutes ces informations-là concernant ce que John MacArthur donne comme caractéristique du décret de Dieu. Alors, Salomon ici reconnaît ne pas le comprendre, le décret de Dieu. Il ne sait rien, et plus il le sait, plus il voit la somme infinie de ce qu'il y a à savoir, et plus il devient sensible à sa propre ignorance. Ce qui est lointain et extrêmement profond, qui peut le découvrir? C'est intéressant dans le texte que le mot profond est répété deux fois. Donc, c'est comme une insistance pour nous faire comprendre. Alors, il veut dire que Dieu lui-même, ses conseils et ses œuvres, en les fouillant, il s'est rendu compte que tout cela le dépassait infiniment et qu'il a échoué lamentablement. Il y a beaucoup de choses que nous voudrions savoir, mais elles sont si lointaines et si extrêmement profondes et secrètes et qu'elles ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent exclusivement au Seigneur. Et on va regarder maintenant le verset 25. On voit que, on a vu que c'était une expérience privilégiée, on a vu que c'était une expérience humiliante, et troisièmement, on va regarder que c'est une expérience aussi exhaustive que possible, le verset 25. Il dit dans le verset 25, « Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. » La connaissance du péché est une connaissance difficile à atteindre. Salomon s'en est donné la peine. Le péché a de nombreux déguisements avec lesquels il se cache. Il ne veut pas paraître aussi répugnant qu'il l'est en réalité, et il est très difficile de le dépouiller et de le voir dans sa vraie nature et dans ses vraies couleurs. C'est de la folie, de la méchanceté, de la stupidité et de la sottise. Les pécheurs agissent contrairement à la fois à la droite raison et à la fois à leur véritable intérêt. On va passer à la deuxième idée de notre passage. On va voir que c'est une déficience qui est amèrement exclamée dans le verset 26. Et ici, vraiment, c'est, quand on dit amèrement, c'est vraiment amer, il constate quelque chose, il dit « Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. » On sait que dans son histoire personnelle, il a cédé à la tentation, il a pratiqué la polygamie, plus de 1000 femmes, et le Seigneur lui avait dit que s'il avait des liaisons avec ces femmes-là, qu'elles le conduiraient à l'idolâtrie. Alors on voit que sa désobéissance a été amère parce qu'il s'est rendu compte, en pratiquant ces choses, Il s'est rendu compte que c'est vrai que ils avaient réussi à l'emmener dans l'idolâtrie. Il est sur la fin de sa vie. Il est bien placé pour se remémorer toutes ces choses. Alors, le roi Salomon est conscient maintenant, plus que jamais, du mal de ce grand péché dont il s'est lui-même rendu coupable, l'amour de nombreuses femmes étrangères. On va aller regarder les versets 1 à 4 du premier livre des rois au chapitre 11. Ça nous dit, « Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Éthiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Alors, ce qu'il déplore ici avec une émotion, une grande émotion, et qu'il l'exprime avec des expressions très pathétiques. Par exemple, on voit qu'il dit dans une exclamation que tout cela est plus amer que la mort. Alors, quand on sait ce que la mort produit dans nos cœurs, quand il y a des êtres qu'on aime qui décèdent, jusqu'à quel point ça peut venir nous affecter, il dit que c'est encore plus amer que cela. C'est éloigné de Dieu, c'est vraiment une grande... Alors, il a trouvé le souvenir de son péché de polygamie et d'idolâtrie. Il a trouvé ça très douloureux. Ô combien cela pesait lourdement sur sa conscience. Quelle agonie pouvait-il vivre en y pensant? On va aller regarder livre des Proverbes au chapitre 5, les versets 3 et 4. Car l'élève de l'étrangère distille le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Alors, quand on regarde un peu les mots qui sont utilisés dans le verset 26, il y a des mots qui sont exprimés et qui nous font prendre conscience des graves dangers d'enchaînement de ces péchés-là. Parce qu'il utilise trois mots qui sont intéressants. Le mot « piège », le mot « filet » et le mot « lien ». Ce sont des mots qui sont puissants et très évocateurs des conséquences possiblement mortelles de ces péchés. On sait qu'un piège, si tu te promènes dans le bois et tu te fais prendre le pied dans un piège à ours, tu vas voir que c'est quelque chose qui est douloureux et, en plus, qui va être très difficile de t'en sortir. On parle de filet, la même chose qu'un oiseau peut être pris dans un filet, la même chose que des poissons peuvent être pris dans un filet. Et on parle de lien, c'est quelque chose qui t'attache. Quand on parle des liens de la drogue, on parle des liens de l'adultère, on parle des liens du péché. Alors, ce sont des choses, trois mots qu'ils utilisent pour nous montrer que la chute dans ce type de péché-là sont extrêmement graves et qu'il y a un enchaînement et de graves dangers qui peuvent te mener même jusqu'à la mort éternelle si tu ne reçois pas la grâce de Dieu. Autre chose qu'on voit dans le verset 26, c'est une exclamation qui exprime le besoin de la grâce souveraine divine pour en être libéré. Autrement dit, un homme qui s'en va là-dedans, il est très dangereux qu'il ne s'en sorte pas par lui-même. Alors ici, on se souvient que le nom de Salomon, c'était Jedidia, aimé de Dieu. Alors le fait, on voit ici la manifestation de la souveraineté de Dieu qui l'a, lui, Dieu, sorti de ce marasme-là et de sa désobéissance grave qui aurait pu l'entraîner très, très loin. Alors les âmes imprudentes sont entraînées par l'appétit, l'appât du plaisir. La luxure se renforce en étant gratifiée et ses charmes sont plus répandus. Ceux qui sont gardés de ce péché doivent reconnaître que c'est Dieu qui les garde et non aucune force ou résolution de leur part. Ils doivent reconnaître que c'est une grande miséricorde et ceux qui voudraient avoir une grâce suffisante pour les armer contre ce péché doivent veiller à plaire à Dieu en tout, en gardant ses commandements et ses ordonnances. Regardez maintenant la troisième idée qui était à partir du verset 27 à 29. C'est une déficience qui est lucidement exposée. Alors, après avoir examiné toutes ces choses-là, il va se rendre compte que, dans le fond, le point commun de toutes ces choses-là, c'est le péché. Alors, on va regarder le verset 27. Il nous dit qu'il a fait une recherche méticuleuse. Et bien sûr, quand tu fais une recherche méticuleuse, tu poses des questions et tu aimerais avoir des réponses. Il dit ici dans le verset 27, « Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. » Donc, Salomon a pensé avoir pu comprendre ses erreurs et en apporter une liste complète, au moins pour les plus importants et les plus graves de sa vie. Il désirait découvrir les péchés en homme repentant afin de les reconnaître plus particulièrement et les confesser. Dans le verset 28, on voit qu'il expose, dans le verset, il dit « Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. » Bien sûr, ce qu'il veut dire ici, c'est que lorsqu'il compare la corruption de son cœur et de sa vie à la corruption du monde, il trouve à peine un homme bon entre mille. Bien plus, parmi les mille femmes et concubines qu'il avait, il n'en trouva pas une seule bonne, parce que comme le Seigneur l'avait averti, c'était des pièges qui auraient pu l'emmener dans des graves et possiblement irréversibles problèmes, dépendamment si tu es un élu de Dieu, que Dieu peut souverainement te sortir de ce grave problème. Et dans le verset 29, on voit que c'est une exposition, tout cela, sur la responsabilité du pécheur. Il dit, verset 29, il dit, « Voici, seulement voici ce que j'ai trouvé. » C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Salomon fait donc remonter tous les courants de la transgression, de la rébellion et du péché jusqu'à la source de la corruption originelle, soit la chute d'Adam et d'Ève. La source de toute la folie qui est dans le monde est dans l'apostasie de l'homme qui s'est séparé de lui volontairement de Dieu, et dans sa dégénérescence par rapport à sa rectitude primitive. Dieu a fait l'homme droit au moment de la création. Après la chute, les hommes se sont enlisés dans le mal et sont devenus ingénieux au mal. Ils ont voulu devenir des dieux, et ce qu'on voit aujourd'hui dans le Nouvel Âge, la même idée n'est pas nouvelle, on voit qu'elle persiste à vouloir se manifester de nos jours. On va relire dans le chapitre 1 du livre de Romains un peu toutes ces idées-là. Romains 1, versets 26 à 32. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Alors, on va regarder trois applications. Bien sûr, c'est un texte qui est très riche. On pourrait en faire plus que trois, mais je pense que les trois principales sont les suivantes. La première, soyons bien conscients que la sagesse ultime, soit celle de Dieu, est infiniment au-delà de notre portée et de celle des hommes mortels ordinaires, même aussi doués et avantagés que Salomon. N'oublions pas que les Saintes Écritures, que dans les Saintes Écritures, la personne même de Jésus-Christ est présentée comme la sagesse ultime. Allons voir par exemple Colossiens, chapitre 2, versets 2 et 3. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Deuxième application, apprenons des expériences amères de Salomon. Sa désobéissance à Dieu avec les femmes l'a conduit vers la polygamie et l'idolâtrie. Craignons le Seigneur en lui obéissant et en haïssant toutes les formes du péché. Adorons bibliquement. Troisièmement, soyons convaincus que le péché et toutes ses perversions est la cause de toutes les souffrances humaines et un voile ténébreux cherchant à nous cacher la gloire divine. Que notre grand, glorieux et merveilleux Seigneur soit béni, exalté et adoré éternellement. Amen.